Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Un accent sur le nouveau leadership. Je suis Keraguir et voici que la rentrée est arrivée et le monde qui bascule aussi. Devant nos yeux, s'est écoulé un été tranquille. Un été pendant lequel nous avons eu le temps de nous poser beaucoup de questions, à l'instar de cet épisode il y a 10 semaines où je vous invitais à vraiment vous poser des bonnes questions. Car maintenant, le temps presse. Et la grosse question devient, comment vais-je faire pour m'en sortir dans ce merdier ? Excusez-moi l'expression. Je pense que maintenant, on est tous plus ou moins raccord sur le fait que les problèmes commencent maintenant. Beaucoup pensaient que le pire était derrière. Maintenant, on sait qu'il nous attend devant. Et face à ça, quels sont nos choix? Que pouvons-nous faire pour changer la donne et s'assurer que demain, nous, nos équipes et nos entreprises, soyons encore là? La question mérite d'être posé, mais la réponse doit être trouvée. Et oui, chers amis, le moment tant attendu, et je mets des gros guillemets à attendu, est enfin arrivé. Depuis le début de la crise sanitaire, les problèmes étaient une énorme évidence. Alors, ça fait 2 ans qu'on en parle dans cette chaîne de podcast. D'ailleurs, elle est née juste à ce moment-là. C'était gros comme une cathédrale. Sauf que pendant 2 ans, j'ai entendu toutes sortes d'adjectifs à l'égard du travail que je faisais. J'ai été nommé très bienveillant, avec beaucoup de bienveillance. Casse-bip, catastrophiste, collapsologue, et tout un autre ensemble de termes qui, c'était pour bien me faire comprendre. Écoute, Iker, c'est bon, on en a assez à gérer aujourd'hui avec tout ce qui se passe pour qu'en vient. En plus, tu viens rajouter une couche non nécessaire à cette histoire. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'était ceux qui étaient un peu moins bienveillants, on va dire, ou un peu plus durs dans les propos. Et donc, il m'est arrivé de me faire nommer diseuse de mauvaises aventures et le terme proscrit le plus horrible qui soit, complotiste. Pourtant, j'ai toujours été, et tous ceux qui êtes fidèles dans cette chaîne, vous le savez, extrêmement critique à l'égard des complotistes. Mais le temps passant, je dois avouer que ma critique a pris un peu de plomb dans l'aile. Parce que je voyais que d'un côté, la version officielle que nous avons tous eu l'habitude de suivre depuis toujours, moi plus que d'autres, parce que je suis de formation économique et on nous a appris dès la première année d'économie à faire des revues de presse, à regarder ce qui se passe, à étudier. Forcément, les sources d'informations sont les mêmes pour tout le monde. On nous a appris à aller chercher ces informations-là aux sources crédibles, mainstream, on dit grand public. Bon, quand j'ai commencé à me tourner vers là-dedans, je me disais, il y a des choses qui tournent pas rond. Par conséquent, pour avoir une pluralité d'opinions, je suis allé voir le cercle des complotistes aussi. Et je peux vous dire que ça m'a hérissé le poil avec les choses que je voyais. C'est vraiment, on frôle n'importe quoi. Et ça m'énervait parce que ces complotistes, au début, ils avaient un bon raisonnement critique et après, ils partaient dans les tours. Mais pourquoi mon raisonnement anti-complotiste a pris de plomb dans l'aile? Parce que j'ai de la mémoire, tout simplement. Et que, il y a 2 ans, toutes les théories des complotistes qui faisaient que le premier qui osait en parler se faisait défoncer, aujourd'hui, se sont avérés. Et il suffit de faire un petit rembobinage. Heureusement, l'Internet nous permet de faire ça pour aller voir ce qui était raconté il y a 2 ans, il y a 1 an. Et aujourd'hui, c'est la version officielle. Ce qui est particulièrement flippant. Donc, j'ai aussi été nommé de complotiste et pourtant, je m'étais vachement gardé de tomber dans ce piège-là. Sauf que aujourd'hui, avec une fierté qui ne me rend pas heureux, je peux dire que depuis 2 ans, dans cette chaîne, on parle d'inflation, de risque d'hyperinflation. On parle de crise des appros, on parle de crise des devises, crise du dollar, crise de l'euro. On parle de risque de guerre bien avant la guerre d'Ukraine. On parle de manipulation de médias, on parle de basculement de système. On parle aussi de choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais que je pense qu'ils finiront tôt ou tard pour être en bouche de tous les politiques, comme par exemple le revenu universel. Donc, si moi, dans mon petit monde, je ne suis qu'un petit dirigeant d'entreprise lambda, je peux arriver à anticiper toutes ces choses-là avec un minimum de bagages et de lecture. Je pense que tout ce qui nous arrive ici est loin d'être la faute d'une guerre en Ukraine, loin de là, et qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de notre cher Poutine. Cher, je mets des guillemets. Du coup, le moment, étant attendu, je mets des guillemets, est enfin arrivé. Et pas attendu du tout, parce qu'il y a 2 ans, je le nommais le tsunami. Et je disais, la vague du Covid a été un énorme tsunami qu'on s'est pris dans la gueule. Mais c'est la vague qui vient derrière est tellement grosse par rapport à ce que nous avons vécu que réellement, il va falloir qu'on apprenne à tenir notre souffle, à tenir dans le bouillon et à surfer cette vague si on peut arriver à s'en sortir. Je tiens encore les mêmes propos. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont complètement d'accord avec cette analyse-là. Donc, bon, aujourd'hui, les opinions commencent à converger. Ce qui se passe... Et là, il y en a certains qui divergeront dans l'opinion. Mais aujourd'hui, j'ose le dire, je le dis depuis le début, mais ce qui se passe est tellement gros, qu'il faudra beaucoup de temps pour accepter de constater ce qui pourtant saute aux yeux. À mon sens, beaucoup de choses qui sont en train de se passer sont à la limite du criminel. Ce n'est qu'une opinion et ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est tellement gros qu'on a trop de mal à croire réellement ce qui est en train de se passer. Écoutez, moi j'ose parler de mascarade politico-économique à échelle mondiale, sans parler de complotisme, tout simplement avec le pragmatisme réaliste du dirigeant d'entreprise. Et on va en parler de ces choses-là aujourd'hui. Le pragmatisme réaliste du dirigeant d'entreprise. On n'est pas des enfants de cœur. On vient du monde de l'entreprise. On en a vu de toutes les couleurs. On sait comment ça fonctionne dans le monde du business. Et les Américains disent bien « it's business ». Le loup de Wall Street, on l'a tous connu. On a tous connu cet espace-là où, au nom du business, on n'a rien à foutre de rien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, tout simplement, c'est que notre système, globalement, est devenu une entreprise. Un point, c'est tout. Et que toutes les notions de démocratie, les valeurs qui vont avec et tout ça, ont en effet un sandwich. Aujourd'hui, si on regarde tout ce qui est en train de se passer, les décisions qui sont en train d'être prises, etc., etc., sur un point de vue stratégico-corporatif, ça a du sens pour la gueule de celui qui a des intérêts. Pas pour les intérêts d'un peuple, pas pour les intérêts d'une société. Ainsi, si on le regarde dans ce sens-là, tu dis, ben écoute, les comportements ne sont plus tellement étonnants. On en a vu des choses pas très cool, tous, dans tous nos marchés. On en a vu, on sait que c'est comme ça. Bon, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. Il y a des super belles entreprises, il y en a certains sur lesquels on ne voudrait même pas mettre le petit doigt. Il y en a certains auxquels on leur donnerait tout notre temps et notre confiance sans limite, et il y en a d'autres, on ne leur donne même pas l'heure. Ben, c'est comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceci a pénétré un marché... Pas un marché, tu vois, lapsus révélateur. Ceci a pénétré un monde dans lequel les choses n'étaient pas censées être comme ça. Mais bon, tout ça, c'est une opinion. Le monde bascule dans le n'importe quoi. Ok, très bien. Sans contrôle, ok, très bien. Ça reste une opinion, on ne va pas rentrer là-dedans. Allons droit au but. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'en attendant, que pouvons-nous faire quand nous sommes leaders ou dirigeants de notre entreprise? Comme je disais tout à l'heure, on croyait que le pire était derrière. Et là, comme je disais tout à l'heure aussi, je pense que peu ignorent que le pire est encore devant. Là, on se retrouve enfin dans une sorte de consensus d'opinion extrêmement réaliste. Seule la question de la gravité de la crise est encore un point de divergence. Maintenant, je pense que nous allons vers le plus brutal des changements économiques, sociaux et sociétaux qui nous ait jamais été donné de vivre. Ça reste encore mon opinion et je suis de l'opinion extrême. Va-t-on dire que je suis pessimiste? Va-t-on dire que je suis catastrophiste? Va-t-on dire que je suis collapsologue? Je n'en sais rien. Mais la réalité, c'est que face à l'inéluctable, nous avons en apparence 2 choix. Mais en réalité, nous en avons 3. Si jamais vous avez envie de participer à cette chaîne de podcast, si jamais vous voulez poser des questions ou apporter des opinions ou tout simplement suggérer des thématiques pour les traiter en profondeur dans cette chaîne de podcast, écrivez-nous à hello@nouveauleadership.life. Hello, H-E-2-L-O, @nouveauleadership.life, L-I-F-E. Et je serai ravi de vous répondre, soit avec un épisode, soit tout simplement directement d'entamer la conversation avec vous. Votre premier choix, direz-vous, pour sortir de cette situation un peu tirée par les cheveux, sera probablement de vous dire qu'il faut une réflexion stratégique. Il faut sauver les meubles, coûte que coûte. À un moment donné, voire certains d'entre vous, vous direz, bon, une crise est aussi une source d'opportunité. C'est là aussi que les grandes fortunes se font aussi. Donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Changer la donne? Bref, il est nécessaire que je trouve des solutions dans le comment. Mais, hélas, avant d'entamer cette réflexion-là, je me permets de vous dire que si c'est ce que vous croyez, que votre premier choix est une réflexion de savoir comment allez-vous faire dans l'action opérationnelle, vous faites fausse route. Car il y a un prérequis à ça. Et c'est là que vos choix vont venir s'opérer avant tout. Et ce prérequis est avant tout un choix de posture. Et c'est ce que nous allons expliquer dans les minutes qui suivent. Qui et quoi allez-vous être? Premier choix de posture, évident quand les choses se passent pas super bien, c'est être un pessimiste. Parce que le monde est ce qu'il est. Ou l'autre choix de posture pourrait être d'être un optimiste. Parce que tout simplement vous y croyez. Et de ce choix découlera votre succès ou votre réussite. Mais, hélas, quand ça craint réellement, comme je pense que ça va craindre dans les mois qui suivent, et hélas dans les années qui suivent, sachez que si vous choisissez ou l'un ou l'autre, vous maximisez une seule chose, vos chances d'échec. Et pour expliquer cela, partons en voyage. Tout d'abord, je vais vous parler de James Stockdale, un vice-amiral de l'armée américaine. Alors, pour ceux qui êtes férus de lecture, je vais vous inviter à lire le livre « Good to Great ». La traduction en français du titre, c'était « De la performance à l'excellence » de Jim Collins. Et dans ce livre-là, il fait l'interview de ce fameux James Stockdale, qui est un vice-amiral, qui a été ni plus ni moins que prisonnier de 1965 à 1973, en pleine guerre de Vietnam, perdu de tout, déconnecté de tout, sans aucun droit quelconque qui lui était reconnu. Je peux vous dire que la déclaration de Genève et compagnie, ces geôliers, ils s'en faisaient un pétard avec. Ils n'en avaient rien à cirer. C'est-à-dire que la condition humaine de chacun des prisonniers qui se sont retrouvés avec James Stockdale était infra-humaine. Autant lui que ses équipes, pendant huit ans, ont été torturés physiquement et psychologiquement, sans exception, tous les jours, à des niveaux à la limite de l'entendable. Pourtant, James Stockdale est revenu. Et dans son livre, Jim Collins, bien évidemment, il vient creuser quelles sont les raisons de cette résistance, comment a-t-il fait pour ne pas succomber à une situation aussi difficile. Et à ça, James Stockdale dit qu'il n'a pas vaincu ses geôliers. Mais celui qui l'a vaincu, c'était lui-même. À travers ce processus, il a d'abord appris à donner de la valeur à ce qu'avant il n'avait pas su apprécier. Et surtout, il dit, ensuite, c'est ce qui lui permettait de s'accrocher, se rendre compte de la grande valeur qu'avait la vie. Mais de l'autre côté, il n'a jamais cessé de croire qu'il allait s'en sortir. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est parce que c'était un invétéré optimiste. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Car quand James Stockdale est questionné sur le décès de ses compagnons, la plupart d'ailleurs d'arrêt cardiaque, c'est arrivé à la limite de leur résistance de la situation, il nous dit que les premiers à mourir étaient les optimistes. Il est décrit comme des naïfs. qui étaient persuadés qu'au Noël suivant, ils allaient pouvoir rentrer à la maison. Alors ils s'accrochaient, parce que c'était des optimistes, parce qu'ils étaient sûrs que ça allait bien se passer. Sauf que quand Noël arrivait, ils sont restés 8 ans là-bas, il ne se passait rien. Et là, une nouvelle vague d'optimisme venait pour remplacer la frustration antérieure, pour la déception, etc. Sauf que c'est une usure psychologique à feu lent. Et nous sommes là dans un contexte durable de problèmes répétés et de difficultés répétées. En ce sens, l'exemple de James Stockdale est extrêmement intéressant par rapport aux optimistes. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, à base d'accumuler les frustrations répétées, les optimistes rentraient dans un épuisement émotionnel. Et à ce moment-là, la situation commençait à devenir intolérable. Il manquait de plus en plus d'énergie pour arriver à justifier la prochaine raison qui allait leur faire tenir dans cet optimisme qui disait « dans 6 mois, on ne sera plus là ». Et à un moment donné, quand tout ça commençait à se déliter, ils rentraient en dépression, une dépression profonde. Et cette dépression était leur descente aux enfers. Et une fois qu'ils rentraient là-dedans, ils laissaient tomber complètement. Et c'était leur corps qui lâchait, c'était leur cœur qui lâchait, c'était leur esprit qui lâchait. À un moment donné, ils ne s'accrochaient absolument plus à rien parce que leur optimisme n'avait plus de prise. Après, on a la notion des vrais pessimistes. Parce que là, tu dis, ben, si les optimistes sont morts, comme on est dans un monde extrêmement binaire, si t'es pas optimiste, t'es pessimiste. Sauf que les vrais pessimistes, eux, ils étaient défaitistes. Et arrivé à un certain moment, ils abandonnent aussi. Ils périclitent face à l'inéluctable. Et il y a un jour que eux aussi, ils lâchent. Car ça ne sert plus à rien de lutter. De toute façon, foutu. Et là, on commence à entamer la même descente. Peut-être aussi alimentée par l'exemple des optimistes qui sont passés avant eux. Tu vois, eux, ils croyaient, regarde où ils sont. Et donc, c'était ceux qui suivaient derrière. Et là, vous allez me dire, mais James Stockdale, il est rentré tout seul ou quoi? Parce que si d'abord, ce sont les optimistes qui partent et après, ce sont les pessimistes, tu vas me dire, qui nous reste-t-il? Et là, nous allons partir en voyage maintenant à l'autre bout de la planète. Nous allons aller au pôle sud. Maintenant, tout comme je viens de le faire avec Good to Great ou de la performance à l'excellence de Jim Collins, je vais vous conseiller une autre lecture extrêmement inspirante de Albert Bosch, qui est un aventurier espagnol et qui a écrit un livre qui existe traduit en français, bien évidemment, qui est « Vivre pour se sentir vivant ». Et je vous conseille vraiment de lire ce bouquin-là parce que c'est un bouquin extrêmement intelligent. Là, je fais une parenthèse promo du livre parce que c'est l'un de ces rares aventuriers et autres personnes hors cadre exceptionnelles et haut en couleur qui sont capables de traduire leur histoire en quelque chose de digeste et d'applicable dans plein de domaines différents, dont, entre autres, l'entreprise. Donc, vous lisez son histoire, mais en même temps, lui, il est capable de sortir du contexte pur de la traversée du pôle sud qu'il a faite, etc., etc., et d'arriver à en extraire des leçons applicables à la vie de tous les jours et aux entreprises de tout genre. Donc, je ferme la parenthèse, ce bouquin extrêmement inspirant. Si vous aimez voyager dans les mondes des aventures et de l'éveil du potentiel et toutes ces choses-là, je ferme la parenthèse. Il s'avère qu'un jour, Albert Bosch part faire une traversée du pôle sud pour fêter les 100 ans de la première traversée du pôle sud, etc. Bon, on passe les détails. Il se retrouve coincé dans les glaces, sous une tempête brutale, au-delà de toutes attentes à l'époque où ils y sont. Ils sont loin de tout et chaque jour, ils risquent leur peau. Les moindres détails de la vie de tous les jours, tout simplement aller aux toilettes, ils sont deux, ils sont enfermés dans une toute petite tente. Rien que ça, ils risquent leur vie. Si jamais il leur arrive quelque chose, c'est absolument impossible qu'on vienne les récupérer. Mais le pire encore, c'est que la tempête brutale, elle dure, elle peut durer des mois. Un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, sept jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours. Psychologiquement, ça commence à être lourd. Il faut vraiment trouver les moyens de sortir de là. Et dans l'espace dans lequel ils sont, la menace de la mort est omniprésente. Et ils sont deux. Et inéluctablement, Dieu merci, à un moment donné, le beau temps arrive. Sauf qu'il y a un problème. Il y en a un qui a lâché psychologiquement. Et là, nous sommes face à un énorme dilemme. Ils se sont préparés pendant 2 ans. Ils ont engagé des démarches extrêmement compliquées dont ils parlent. Ils ont eu énormément de déceptions, énormément de difficultés à y arriver. Là, finalement, leur rêve leur tend la main et il y en a un qui lâche psychologiquement. Ce qui suppose dans un binôme, à un moment donné, de lâcher psychologiquement, pas lâcher psychologiquement, mais lâcher l'aventure tous les deux. Et contre toute attente, Albert Bosch, il dit « Non, moi je vais continuer. » Alors, je vous passe des détails, vous les lirez dans le livre si ça vous intéresse, mais tout est organisé pour voyager à deux. Ce n'est pas une aventure en solo, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout outillé pour voyager en solo. Et pourtant, il se dit « Tu sais quoi ? Je vais y aller. » Jamais dans l'histoire des traversées des pôles, il n'y a eu une telle situation. Quand un groupe commençait à deux ou en groupe, et il y en a un qui lâche, c'est l'ensemble du groupe ou du binôme qui décide de lâcher, pas les aventures en solo. Mais il poursuit l'aventure en solo et il réussit la traversée. C'était du jamais vu. Et c'est là qu'il vient compléter l'histoire, parce que nous étions d'abord, je vous rappelle, avec James Stockdale, qui nous dit « Les optimistes, boum, caput. Les pessimistes, boum, caput. » Et ici, Albert Bosch, qui s'appuie sur cette histoire-là, nous dit qu'en fin de compte, là où se marque la différence, c'est pas parce que tu es optimiste ou pessimiste. C'est parce que avant tout et surtout, tu es réaliste. Et là, il y a deux types de réalistes. Il y a les réalistes qui voient que ça pue. Là, ça craint réellement. Il y a une énorme tempête dehors. On peut crever à chaque minute. On est réaliste. On fait attention à tout ce qu'on est en train de voir. Mais on reste optimiste et positif. C'est là que notre amiral, lui, n'a jamais douté une seconde qu'il allait s'en sortir. Il restait positif quant à l'issue de ce qui allait se passer. Mais il est très, très réaliste. C'était vraiment une situation extrêmement dure qu'il allait avoir à traverser chaque jour. Un jour, il savait qu'il allait s'en sortir. Et il se donnait suffisamment de raisons pour se dire « La vie est suffisamment belle pour que je tienne. Je sais que je vais m'en sortir. Par contre, je vais en prendre plein la gueule. Tous les jours, sans exception. » Et ça a duré 8 ans. Donc là, nous avons une première posture, le réaliste positif. Et ensuite, il y en a un autre. Et celui-là, c'est moi qui le rajoute, parce que Albert Bosch, l'aventurier, n'en parle pas. Ce sont les pessimistes qui ont toujours foi. Qu'en réalité, ce sont des faux pessimistes. En réalité, ce sont des réalistes positifs. C'est que ils voient que c'est la merde, excusez-moi l'expression, mais ils ont toujours foi. Ils vont s'en sortir, quoi qu'il en advienne. Ils en ont vu d'autres. Et tous, sans exception, les réalistes positifs ou les pessimistes qui ont la foi, tous, sans exception, ont une très sérieuse envie de se battre pour que les choses s'arrangent. Être prêt à saisir la moindre opportunité. Et là, je ne vais pas ouvrir. J'ai failli le faire dans cet épisode, mais il allait durer trop longtemps. Là, c'est un master en effectuation qu'il vous faut. Mais il y a un épisode de cette même chaîne de podcast qui parle d'effectuation, même si je pense que dans les épisodes qui suivent, je ferai un nouveau focus sur l'effectuation, mais adapté à ce que nous vivons maintenant et les choix que nous pouvons faire de façon effectuelle. Je ferme la parenthèse, car l'effectuation, il s'agit de se tenir prêt à saisir la moindre opportunité ici et maintenant. Mais la clé, le choix de posture, réaliste, positif ou pessimiste, ayant la foi. Premier choix de posture. Et derrière, est-ce que vous allez avoir une très sérieuse envie de vous battre pour que les choses s'arrangent? Et là, je m'adresse à tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas au bon endroit, qui subissez votre vie au quotidien, qui vous êtes demandé 1 milliard de fois, est-ce que réellement ça vaut la peine tout ce que je suis en train de faire? Car ce genre de questions pourrait très sérieusement vous miner au moment d'avoir une sérieuse envie de vous battre. Il n'est jamais trop tard de trouver les bonnes raisons pour avoir envie de se battre. Par contre, tous ceux d'entre vous qui avaient fait le cheminement de donner du sens à ce que vous faites, je vous invite à écouter tous les épisodes sur donner du sens, sur l'importance du pourquoi qui ont été faits dans cette même chaîne il y a déjà 2 ans, parce que j'avais conscience très claire de l'importance du sens dans les temps qui allaient venir. L'importance d'avoir un pourquoi solide. Pourquoi? Parce que je sais qu'on est dans des situations très extrêmes, et j'apprends ça des Navy SEALs, donc je vous raconte une autre histoire. Pour être dans l'armée d'élite des États-Unis, c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans cette chaîne, pour être dans l'armée d'élite des États-Unis, les fameux Navy SEALs, il est nécessaire de passer un processus de sélection extrêmement exigeant. Ils appellent ça « Hell Week », la semaine infernale. 7 jours pendant lesquels le seul but des gradés qui vous accompagnent, c'est de vous briser. Et je peux vous dire que ce ne sont pas des tendres. Nous sommes en train de parler de l'élite de l'armée. Donc, quand ils vont briser quelqu'un, ils y vont à fond. Et d'ailleurs, il n'est pas rare qu'il y ait des postulants qui meurent pendant la semaine infernale. Donc, ce n'est pas des blagues. Et tous vous disent qu'à un moment donné, il y a tout qui se brise à l'intérieur de vous. Tout sans exception. Il n'y a plus rien qui tient. Et vous avez la possibilité d'arrêter à n'importe quel moment. C'est-à-dire que vous savez que vous avez cette porte d'issue-là. Mais qui, pour l'armée américaine, représente le fait que l'individu, quand ça craint, il finira par lâcher. Et s'il lâche en situation critique, on ne peut pas compter sur lui. Donc on le pousse. Et les seuls qui restent, qui deviennent Navy SEAL, sont ceux qui ont passé haut la main la semaine infernale. Tous ceux qui deviennent Navy SEALs vous disent une chose. Sans exception, tous ceux qui réussissent avaient une raison plus grande que eux-mêmes de continuer à tenir. Car à un moment donné, la valeur même qu'ils donnaient à leur personne ne valait plus rien. Ils s'étaient effectivement laissés briser. Mais par contre, ils avaient autre chose à côté auquel ils donnaient une tellement grande valeur que c'est à ça qu'ils se sont accrochés. Et ça, c'est impossible à effriter. Certains vous parleront de leurs enfants. Certains vous parleront de leur volonté de contribution, de leur amour du pays. J'en sais rien. Chacun aura sa version de ce pourquoi plus grand que lui. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez déjà entamé ce chemin-là, qui avez commencé à apporter des réponses à ce chemin-là, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver cette sérieuse envie de vous battre pour que les choses s'arrangent. Parce que vous avez un pourquoi beaucoup plus grand que vous. C'était Nietzsche qui disait, alors je le dis avec mes mots, mais c'était « Quiconque a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les comment ». Nous sommes absolument et totalement là-dedans. Donc, nous avons d'un côté deux choix de posture. Tous les deux réalistes. Mais est-ce que vous serez un réaliste positif ou vous allez être un pessimiste qui aura toujours foi ? Dans les deux cas de posture que vous choisissez, derrière ce qu'il va falloir, c'est cette sérieuse envie de vous battre pour que les choses s'arrangent. Donc pour résumer, optimiste, pessimiste ou réaliste ? Lequel des trois êtes-vous ? Alors, bien évidemment, je ne vais pas juste m'arrêter là en déposant ça. On va donner un petit peu d'explication pour comprendre pourquoi ce choix est tellement important. Et là, je vais faire un petit détour par la neuroscience, qui nous permet de comprendre comment fonctionne notre cher cerveau et comment fonctionne justement l'importance des choix que nous faisons dans les contextes que je suis en train de décrire. Là, je vais vous donner certains chiffres. Assez détonnant. Certains d'entre eux, je les ai déjà nommés dans cette chaîne de podcast à plusieurs reprises, tellement ils ont d'importance dans ce que nous incarnons en tant que leader et dans les résultats que nous obtenons. Premier chiffre détonnant. Nous avons, en moyenne, 60 000 pensées par jour. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, première grosse découverte ou deuxième grosse découverte de la neuroscience, c'est que nous avons, en moyenne, 90% de ces pensées qui se répètent d'un jour sur l'autre. 60 000 pensées par jour, ça veut dire ça mouline là-dedans, et 90% sont les mêmes. Ne vous étonnez pas que les choses ne changent pas, dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Sauf que nous avons encore une autre data extrêmement intéressante, et qui dit qu'en réalité, 95% de ce que vous faites au quotidien se fait en pilote automatique. Ça veut dire que c'est votre subconscient qui est programmé pour fonctionner d'une certaine façon. L'exemple que je donne toujours, c'est que, alors il est de moins en moins applicable aujourd'hui parce qu'on a des voitures automatiques, mais Bien évidemment, je m'adresse à un public qui a connu les voitures avec les rapports manuels. Eh bien, ce qui vous permet de conduire, de passer les rapports, changer l'embrayage et compagnie, c'est-à-dire pousser l'embrayage, freiner, accélérer, changer les rapports, et en même temps tenir une conversation, écouter la radio ou penser à autre chose, c'est ce fameux pilote automatique. C'est que la conduite, vous l'avez faite tellement de fois qu'elle est venue se programmer et votre subconscient pilote à votre place. Sauf que votre subconscient est le pilote dans l'avion dans 95% de ce que vous faites au quotidien. Donc forcément, les neuroscientifiques se sont intéressés à comment peut-on faire pour programmer ce fameux subconscient. Et moi, ça a été quelque chose qui m'a évidemment sauté aux yeux en tant que dirigeant d'entreprise. Là, si 95% de mes résultats sont définis par ça, parlez-moi d'efficience. Je veux dire, comment je vais faire pour influencer ça? Si les formations que je fais, si tous les trucs que je fais, les accompagnements, les coachings ne viennent influencer que 5% de ce que je fais, arrêtez d'enquiquiner. Donnez-moi l'accès à ce 95%. Et c'est ce qu'ont fait les neuroscientifiques. Ils nous ont appris que le subconscient est programmé par deux approches. Et vous allez comprendre pourquoi ce que je vous raconte aujourd'hui est extrêmement important. D'abord, l'hypnose. Mais nous pouvons intégrer dans l'hypnose l'auto-hypnose. Un exercice de visualisation peut être un exercice d'auto-hypnose. Et la deuxième façon de programmer le subconscient, c'est la répétition. C'est faire et refaire et refaire et refaire et refaire et refaire et refaire. Et à un moment donné, on l'a fait tellement de fois qu'on le fait sans penser, sans réfléchir, en pilote auto. Deux façons de programmer le subconscient. Maintenant, vous allez comprendre parfaitement l'importance de ces questions de posture que je vous ai présentées en début de ce podcast. Parce que si vous avez 60 000 pensées par jour en moyenne, et je pense qu'en tant que leader et dirigeant, vous en avez un paquet de plus, parce que ça ne s'arrête jamais, même la nuit. 90% sont les mêmes. Le choix de posture que vous allez faire, optimiste, pessimiste, réaliste, tournera en boucle. Mais une fois qu'il va tourner en boucle, il va influencer la programmation que vous allez faire par la répétition. Premier point. Deuxième point. Nous avons cette tendance un peu maladive en tant que leader et dirigeant à se projeter tout le temps vers l'avenir. On vit en fin de compte dans le futur. On est tout le temps à essayer d'anticiper, d'éviter les embûches de l'avenir. On vit en permanence dans le futur. Sauf que en faisant ça, nous devenons de véritables ninjas de la visualisation. Donc sans le savoir, à travers la répétition des visualisations qui accompagnent les 60 000 pensées par jour, nous rentrons aussi dans une technique involontaire très souvent, d'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on donne une dose superlative à notre subconscient pour venir le programmer. De quoi? De ce que l'on aura décidé de lui mettre dedans. Dedans quoi? Dans ses 60 000 pensées par jour. Ce que vous pensez, la neuroscience nous dit, prédétermine ce que vous vivez. Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Ce que vous pensez prédétermine ce que vous vivez, et par conséquent, le monde dans lequel vous vivez et les opportunités que vous saisissez. C'est grâce à ces découvertes-là que la psychologie positive a pu expliquer pourquoi, c'est grâce à ces découvertes-là que la neuroscience, excusez-moi le lapsus, a pu expliquer pourquoi les études de psychologie positive montraient que ceux qui étaient dans une certaine état d'esprit positif, aujourd'hui on a donné des nuances essentielles, mais dans la psychologie positive, on sait que l'on vit plus longtemps, en meilleure santé, avec des relations plus épanouissantes, avec des amitiés beaucoup plus fortes, on a beaucoup plus de succès dans la vie, des carrières beaucoup plus spectaculaires, on vit plus longtemps, plus heureux, et la meilleure de toutes, on a beaucoup plus de chance. Alors ça faisait rire beaucoup de gens tout ça. Pourtant, c'était des études sérieuses en psychologie positive. Elles ont été décriées et tout ce que tu veux. Sauf que la neuroscience est passée derrière et avec une précision au laser, ils sont venus nous confirmer pourquoi c'est le cas. C'est que 60 000 pensées par jour vous mettent dans un contexte qui n'est pas propice à voir les opportunités, vous n'allez pas les voir passer. En ne les voyant pas passer, vous n'allez pas les saisir. en ne le saisissant pas, vous n'allez pas pouvoir en profiter. C'est pour ça que maintenant, dans le contexte vers lequel nous allons maintenant, avec la vague énorme de tsunami qui commence déjà à nous déferler dans la figure, rappelons juste deux choses à ce moment-là. Une, les vrais leaders font leurs preuves dans les situations critiques. Deux, dans l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Et maintenant, permettez-moi de faire une petite parenthèse, comme disent les Américains, un disclaimer, ok? Une petite annonce pour dire, ce podcast-là, la posture depuis laquelle je le fais, n'est pas du tout, alors là, loin de là, la posture du donneur de leçons. Je suis en train de partager avec vous comment j'alimente ma propre posture pour avancer moi-même face aux mêmes problèmes que nous avons tous. Je ne considère pas être dans une posture capable de donner des leçons quelconques. Je ne sais même pas si je vais m'en sortir demain. Par contre, je fais tout pour qu'il en soit ainsi. Et de toutes les pépites que je trouve, ce que je fais, je les partage dans ce podcast, en espérant qu'elles nous serviront. Donc, je ne suis pas en train de faire de ce podcast depuis la posture du sachant qui regarde son public de plus haut. Je suis en train de faire ce podcast avec toute l'humilité qui m'habite, en vous disant, merde, comment on va faire pour nous en sortir? Écoutez, voilà les idées que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, tous ensemble, on ira faire face au même problème. Par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, il y a quand même quelque chose qui convient de souligner. Et c'est que aujourd'hui, hélas, nous subissons très sérieusement le syndrome des trois singes. Parce que nous avons choisi d'être ignorants. Volontairement ou involontairement. Je disais tout à l'heure, dans l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Mais le syndrome des trois singes nous pousse dans cette ignorance. Et aujourd'hui, il faut qu'on lui fasse la peau. C'est quoi le syndrome des trois singes? D'abord, on ne veut pas voir. Soit parce que s'informer est ou était trop plombant. Ou parce que ça exige et ou parce que ça exige trop d'efforts, parce qu'on a d'autres choses à faire, parce que c'est trop énergivore, c'est trop de mauvaises nouvelles. Tout ce que vous voulez, vous donnez toutes les raisons du monde. On ne veut pas voir. C'est le singe qui ferme les yeux. Ensuite, on ne veut pas entendre. Dans ce cas-là, on n'a pas de bande passante, on n'a pas de temps à accorder, on est saturé, il y a trop d'oiseaux de mauvais augure, j'ai déjà suffisamment de problèmes à gérer comme ça. Je ne sais plus gérer cette surcharge d'informations, ça me saoule, ou tout simplement, je ne suis pas d'accord, je veux vivre ma vie tranquille, lâche-moi, je coupe, je ne veux pas entendre. Je préfère ma vie comme ma vie d'avant. Troisième syndrome du singe. Donc celui-ci, c'est le singe qui se bouche les oreilles. On ne veut pas dire. Alors, ça, c'est le cas des personnes qui se disent « Ouais, il y a des choses qui semblent bizarres. Ça tourne pas parfaitement rond. Ça m'interpelle. » Ou tout simplement, j'ai une opinion claire. Mais si je m'affiche, je risque l'exclusion de mes pairs, voire la radiation, ou pire, une humiliation sur la place publique. Et à la fin, on arrête de parler parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le problème, c'est que ce que nous avons subi ces deux dernières années est tellement gros, à tous les niveaux, que nous avons tous agi ainsi pour les raisons qui soient. Et c'est humain. Soit on ne voulait pas voir, soit on ne voulait pas entendre. Soit on ne voulait pas dire. Et c'est ce qui explique que quand les nouvelles sont arrivées, l'immense majorité se les ont prises dans la figure comme « mince, et maintenant ça ». Je nomme deux exemples parce qu'ils sont d'une évidence tonitruante. La crise des appros d'un côté, l'inflation de l'autre, et je pourrais même en citer un troisième qui est la crise de l'euro qui amène une énorme tension sur toutes les entreprises qui font du commerce à l'international. Une très grande partie d'entreprises ont subi ça de plein fouet quand il était trop tard. Et ça a bouffé toute leur marge dans l'année qui vient de s'écouler. Donc nous avons là ce syndrome des trois singes que nous avons eu à subir, sauf que c'est un très gros problème pour la suite. Donc ok, on a subi ça, c'est humain. Mais maintenant, il faut mettre un gros focus sur son existence. Parce que ce syndrome-là peut énormément nous savonner la planche pour ce qui vient arriver. Car le réalisme est impossible dans l'ignorance. Ça donne des clichés, comme par exemple les optimistes qui veulent croire que le lendemain sera meilleur ou tout simplement que le monde d'avant va revenir. J'ai eu des discussions, je dirais presque à la limite de burlesque, avec des hauts responsables économiques, gouvernementaux quand même, qui me disaient texto, écoute Iker, ça a été suffisamment difficile jusqu'à maintenant, je veux croire que ça va bien se passer, parce que quand je regarde autour de moi, les indicateurs sont bons, et je préfère m'arrêter là. Je préfère croire, je cite, je préfère croire que le monde est revenu tel qu'il était avant la crise sanitaire. Ça, ce sont les optimistes qui veulent croire en un lendemain meilleur, mais ils ne sont pas réalistes. On est là dans la fuite du problème. C'est une réaction classique du cerveau quand il est sous stress. Ensuite, nous avons un autre profil, les pessimistes qui acceptent de subir, mais qui réagissent quand il est trop tard. Et ils se disent que de toute façon, on s'est toujours fait mener en bateau par les uns et par les autres. Eux, ils ne répondent pas par la fuite, mais ils répondent par l'attaque frontale. Mais c'est une attaque frontale non structurée, non organisée, non préparée. Donc ils ont envie d'en découdre, mais la seule chose qu'ils font, ils se prennent des vagues dans la figure. Ensuite, nous avons avec ce syndrome les pessimistes, qui eux acceptent de subir, mais réagissent quand il est trop tard. Eux, ils se disent, de toute façon, on s'est toujours fait amener en bateau, c'est toujours comme ça, il n'y a rien qui change. Et eux, par contre, n'optent pas pour la fuite, mais par l'attaque frontale. Ils y vont, sauf qu'ils ne sont pas préparés pour cette attaque frontale. La seule chose qu'ils font, c'est se prendre les vagues dans la figure. Et ensuite, on a les nouveaux réalistes. Et eux, face à l'évidence, ils se disent, ouais, effectivement, ça va pas, mais ils ne se sont pas préparés. Et donc, ils ne savent plus quoi faire. Et là, ils sont forcés à l'inhibition. Aussi une réaction de stress du cerveau. Donc, la fuite, l'attaque ou l'inhibition, mais pas dans le bon contexte. Chers amis, l'impact de ce syndrome des trois singes sur ce qu'il en est advenu de nos entreprises des deux dernières années est superlatif. Sauf qu'en mettant un coup de projecteur, on ne va pas commencer à se juger et se dire « oui, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, il lit bien, il lit pas bien ». C'est tout simplement nous poser la question « est-ce qu'il agit encore aujourd'hui ?» Parce que s'il agit encore aujourd'hui, il nous empêche d'être réaliste. S'il nous empêche d'être réaliste, c'est-à-dire qu'à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre, il fomente notre ignorance. Chers amis, en tant que leader, le moment est venu maintenant plus que jamais de nous réveiller. La situation est vraiment critique. Elle dépasse de loin nos entreprises. Mais je vais à l'encontre de ce que disent la plupart de dire « ouais, j'y peux rien, ça me dépasse » parce qu'elle dépasse nos entreprises. Oui, parce que c'est systémique. Mais elle ne nous dépasse pas pour autant. Car elle nous concerne nous tous, individuellement, en groupe. Elle concerne notre futur. Elle concerne celui de nos entreprises, mais elle concerne aussi celui de notre société et j'ose même dire celui de nos enfants. Encore faut-il, après, que nous sachions ce sur quoi nous voulons agir. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, la grosse question est de savoir comment allons-nous faire pour survivre. Et votre posture définira une très grande partie de la réponse à cette question. Car il va en falloir de très grandes doses de leadership pour bouger notre monde. Et quand je dis notre monde, je parle de nos équipes, je parle de nos entreprises, mais je parle aussi de notre environnement proche. Si vous voyez où je veux en venir avec ce que nous venons de partager, je pense que vous avez mis un pied à l'étrier. Restera ensuite encore à monter puis dresser le cheval devenu fou. Mais ça, c'est une autre histoire, et ce sera pour les épisodes suivants. Car... Le moment est venu de réinventer le leadership et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Je suis Kerr Aguirre et ceci est votre chaîne de podcast, un accent sur le nouveau leadership.